Dites-moi, est-ce que je peux vous prendre un café allongé, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr.
Je veux goûter un cake au citron, Anthony.
Présenté comme ça, ça va être difficile de refuser.
Tu sais, je t'avais fait une chronique sur les cakes, hein, les cakes de Sophie.
Ouais.
Et bien là, nous avons le cake au citron du Zeste, de la boulangerie coopérative du Zeste.
C'est du cake du Zeste.
Cake au citron du Zeste, donc...
Le fameux cuse.
Le cake usestois.
Mais qu'est-ce qu'il a de plus, ce cake usestois?
Mais il est bien, vous voyez, imprégné de citron, il est bien mariné dedans, mais pas acide non plus, vous voyez, vraiment l'expression
et
même.
Le pH est neutre.
Le pH est bien contrôlé par un dosage de sucre.
Et ça, c'est le travail du boulanger.
Exactement. J'allais vous faire remarquer les zestes, quand même, sur le cake usestois.
C'est-à-dire que c'est le seul cake avec un zeste apparent, quand même. On va l'enregistrer, cette émission, hein, parce que j'ai pas que ça à faire.
Il est bien, ton bouquin? Casse pas des briques. Il tient. Je comprends rien.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Mais ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux?
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
MDM?
MDM.
Tout un monde.
Soit il fait très froid, soit je suis très fatigué, soit j'avais même pas capté le cake du zeste avec du zeste de citron.
Eh oui, voilà, ami des mots, ami des mets, bonjour.
Alors ils ont fait exprès parce que c'était, parce que si ça avait été à Libourne, il y avait, on faisait quoi? Ou avec de facture peut-être.
Mais écoutez, on ferait
un cake de bonne facture.
Non mais voilà, on ferait un cake de bonne facture à facture, voilà.
Ouais, c'est bien.
C'est voilà.
Même marier les noms avec les aliments, c'est génial. C'est un nom, ça aussi, vous allez nous apprendre un nouveau mot, Romain Baxter,
une
bonjour.
Une figure de style gastronomique, ouais, là, il faudrait que je travaille un peu plus pour le coup.
Mais ça doit exister.
Sans doute.
Vous avez 2 heures. Alors, vous allez avoir un petit peu moins, ça, pour nous parler de Charles Dickens. Oh, hé, c'est pas un Alexandres. Vous avez un peu moins, ça, pour nous parler de Charles Dickens. Oh, je sais pas, je peux pas tenir le micro et compter.
Dickens, oui, avec l'accent du sud-ouest, quoi. Dickens, ouais. Oui, alors,
comment on va resituer.
Voilà, comment resituons. Pourquoi Dickens? Parce qu'il s'agit aujourd'hui de la chronique, donc d'une retraduction d'un livre de Charles Dickens, De grandes espérances.
Ouais, pas le plus petit.
Quoi que c'est plus petit.
Je veux dire par la puissance du truc.
Ah, ouais. Bah, tout à fait. Alors ça, c'est la dernière œuvre, en fait, hein, publiée par Dickens dans sa vie. C'est la dernière œuvre, plutôt, c'est l'avant-dernière achevée. Voilà. Il y a un dernier roman aussi qui vient après. Donc Charles Dickens, mort en 1870. Ça, c'est 10 ans avant sa mort, 1860. Il a publié De grandes espérances. Donc c'est un livre...
Pourquoi, à quel point c'est important cette nouvelle traduction d'une œuvre en majuscule, que constituent de grandes espérances.
Tout à fait. Déjà, bon, peut-être un petit point sur Charles Dickens. Hein,
oui.
C'est le grand auteur de la période victorienne, donc en Angleterre. Hein. Donc Charles Dickens, 1812-1870. Voilà, on rappelle que c'est un grand romancier, surtout de la description des classes sociales, vous voyez, et de toute cette diversité, cet empilement, ce millefeuille de classes sociales à l'époque victorienne. Rappelons que Charles Dickens, lui, à 12 ans, a subi un traumatisme fondateur, c'est-à-dire que ses parents ruinés ont été obligé en fait de le faire travailler en gros et de l'envoyer à 12 ans dans une usine. Il collait des étiquettes sur des boîtes de cirage. Voilà, pendant un an, à 12 ans, il a été mis en contact avec une des plus grosses barbaries de notre société, c'est-à-dire le travail des jeunes enfants, quoi. Donc voilà, et ça a été vraiment fondateur pour sa vie d'homme et d'écrivain. Donc ça, c'est un événement vraiment qu'il faut rappeler parce que tout le monde connaît sans doute David Copperfield ou Oliver Twist. Hein, voilà, donc c'est figures comme ça de jeunes enfants qui évoluent dans la vie, pour aller très très vite, pour caricaturer vraiment.
Et qu'on retrouve, d'ailleurs.
Et qu'on retrouve, voilà, c'est des personnages, c'est vraiment un projet Charles Dickens, c'est au niveau de Hugo, Balzac, enfin bien évidemment, on connaît peut-être un peu moins en France pour certains Chauvin.
C'est le Hugo british,
Complètement. Il y a d'ailleurs des analogies, je trouve, à mon sens, avec Les Misérables, avec bien sûr les grands romans du 19e français. Voilà, c'est vraiment une œuvre majeure. Et De grandes espérances, c'est donc le dernier ouvrage majeur qu'il a publié avant de mourir.
La légende d'un siècle, pour paraphraser Hugo.
Allez, voilà, allons-y. Et ce qui est intéressant.
Vous êtes bonne composition
allons-y,
quand même.
Mais oui,
c'est-à-dire, je peux dire n'importe quoi, allons-y.
Allons-y. Allons-y. Non, mais oui, parce qu'il faut y aller. Il faut se plonger dans cette traduction de Jean-Jacques Greff. Ce qui est intéressant, c'est que cette traduction, bon, outre le fait accessoire qu'elle ait remporté le Grand Prix de la traduction Bernard Hofner cette année, ce qui n'est quand même pas rien, c'est un peu le prix Goncourt, si on peut dire, de la traduction d'une œuvre classique. Ce qui est intéressant, c'est que là, Jean-Jacques Greff s'est attaché à rendre tous les niveaux d'oralité, en fait, et de registre de la langue de Charles Dickens. Parce que, vous savez bien, en Angleterre, c'est par l'appartenance sociale qu'on se démarque dans le langage. Mmh. Vous savez, hein, l'accent de tel quartier, ouais, de telle classe sociale, c'est...
Ouais, Cockney.
Exactement, voilà, c'est beaucoup plus, comment dire, marqué et marquant en Angleterre qu'en France, finalement, même s'il y a aussi, bien sûr, nous également...
C'est pas région en France.
De, voilà, c'est régional, ou alors c'est la très très haute et la, je sais pas, la très très populaire, on va dire, mais en Angleterre, vraiment, on peut vous démarquer, si vous voulez, du Kent, du voilà, en fonction de votre accent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Jacques Greff s'est attaché à ça. Et c'est maintenant un peu une tarte à la crème que de dire que les traductions françaises ne respectent jamais ces dimensions d'oralité de la langue anglaise ou américaine.
Ça veut dire qu'il faut jeter les cailloux sur les éditions d'avant ou...
Non, bah disons que non, soyons indulgents et les traducteurs... Ah là là, désolé pour ce téléphone de la librairie. Bon,
on dirait Pac-Man à l'envers.
C'est vrai que c'est un peu jeu vidéo. Donc non, disons que les traducteurs disent que les traductions s'empilent. Voilà, ouais. Une n'annule pas forcément l'autre, elles s'empilent. C'est-à-dire que maintenant, à notre époque, disons en 2022, il faut tout simplement lire celle de Jean-Jacques Greff.
Ouais. Voyez, alors que voilà. ça bouleverse pas non plus l'histoire. Ça apporte non, mais concrètement quoi.
Alors, vous voyez, donc l'histoire. Maintenant, rentrons un peu dans l'histoire de, voilà, de Grandes Espérances. Voilà.
Oh, ouais, on l'a trouvé cette transition.
Que se passe-t-il en fait? C'est tout simplement, allez en une phrase, de Grandes Espérances est un roman d'apprentissage de Pip, hein, Philippe Périp.
Un surnom, hein,
Pip, voilà, appelé Pip le personnage. Et donc, c'est tout simplement un transfuge de classe, comme on dirait aujourd'hui, vous voyez, comme un sociologue moderne dirait, c'est-à-dire qu'il est donc fils orphelin, hein, avec sa sœur, il est élevé en fait par sa sœur et son beau-père, donc le mari de sa sœur, Joe Gargery, j'essaye de prononcer un
Kent.
Accent, voilà.
Vous venez du
voilà,
Kent.
Du Kent, pas loin de Villeneuve-de-Marsan,
ouais.
Et donc il est élevé dans une famille populaire, c'est pas la grande misère, mais c'est quand même la pauvreté, ouais. Cette famille de forgerons, donc Joe Gargery est forgeron, il est censé prendre la suite, hein, de son père adoptif, mais en fait il va, voilà, traverser le monde, hein, comme on dit, il va aller à Londres, il va avoir une évolution, une ascension sociale très importante, une passion aussi pour une jeune fille, Estella, un amour impossible, enfin voilà, comme les plus belles histoires d'amour, et voilà, donc c'est tout simplement le parcours de cette ascension sociale, donc vous imaginez bien que dans le parcours d'une ascension sociale dans l'Angleterre victorienne, c'est par la langue que ça se passe et que ça, ouais, se fait sentir, quoi. Donc les traductions précédentes rendaient très mal ça. Vous voyez, une des hypothèses de Jean-Jacques Greff, je l'ai entendu là ce matin à la radio, il disait que peut-être que tout simplement les Français n'aimaient pas mal écrire. Parce que quand on rend l'oralité, on écrit mal. Vous voyez, il y a des fautes dans l'oralité. Quand les pirates parlent, par exemple, dans L'île au trésor, ils parlent comme des charretiers. Vous voyez, ils ont un langage d'enfant, ouais, à la fois de personnes complètement avinées. Donc c'est une langue différente, hein, où il y a des fautes de conjugaison, de temps, même les lettres des mots sont parfois mélangées. Ouais. Et les traducteurs français
aseptisent un peu. N'aiment
pas mal écrire parce que vous voyez, c'est difficile finalement d'écrire mal, d'écrire avec des fautes pour rendre des niveaux de langue. Ouais. Donc ils ont eu tendance, en effet, un peu à aseptiser, comment dire, à niveler comme ça ces registres de langue qui rendent tout le sel en fait et tout l'intérêt du roman. C'est vraiment le cœur, c'est ça, quoi. Donc on imagine que des traductions comme celle de Jean-Jacques Greff en fait sont fondamentales aujourd'hui. Vous voyez,
ça serait intéressant de pouvoir comparer les anciennes versions avec celles de.
C'est ce qu'on va faire demain soir avec Marie Chabin. Vous voyez, qu'est-ce qu'il est bon avec Marie Chabin, donc notre amie traductrice qui traduit notamment Jody Picou chez Actes Sud ou chez Do Édition. On a la chance d'avoir donc Marie Chabin qui habite pas loin de Mont-de-Marsan. Et donc elle va prendre en charge justement la comparaison demain soir. Donc nous aurons demain soir Jean-Jacques Greff.
Vous allez faire avant, après, quoi.
Voilà, ouais. Il y a même une locutrice américaine qui va venir, Amy, qui va nous lire donc des passages. Donc bon, elle est américaine, elle va lire de l'anglais, ouais, victorien, ça va être intéressant. Elle va lire ça, Marie Chabin va lire la présente traduction. Et Jean-Jacques Greff, peut-être sa nouvelle traduction pour rendre justement tout le sel de l'évolution de cette traduction. Donc voilà, donc c'est vraiment un événement.
Alors, De Grandes Espérances, Charles Dickens, on en cause ce vendredi soir à partir de 19h. Sinon, il y a eu combien d'adaptations? Parce que ça a été, je crois, au théâtre. Ouais. J'ai vu du théâtre musical avec Jeff Mills, je crois, le DJ.
Il a tout fait, ça qui est hallucinant, ouais. Hein, auteur, donc romancier, il a monté des hebdomadaires, il a également été dramaturge, acteur, il a fait des lectures publiques, enfin. Donc la dimension de l'oralité et du théâtre est aussi très très présente chez cet auteur.
Et je ne parle pas des versions au cinéma, la dernière en date, je crois qu'elle date de 2012, c'était avec l'excellent Ralph Fiennes et Helena Bonham Carter. On va faire une petite pause pour parler du prochain rendez-vous de samedi, musical. La pause, elle va être avec quelqu'un dont on va reparler et dont on reparle ces derniers jours. Il s'agit de Lou Reed, puisque c'est le 50e anniversaire de la sortie de l'album mythique Transformer avec, avec Walk on the White Side, avec Perfect Day. Mais on va y mettre un petit peu de stupre avec le titre qui ouvre l'album. Et on se retrouve après, bande de petits vicieux. Vicious, l'un des titres majeurs, ils le sont tous, hein, finalement, de l'album Transformer de Lou Reed, dont on célèbre les 50 ans de la sortie. Ces jours-ci, Lou Reed, plébiscité par une des plus grandes plumes du rock'n'roll, un certain Lester Banks, dont il va être question ce même vendredi soir à la librairie Caractère, ici à Mont-de-Marsan.
Et oui, voilà, c'est là où on fait le grand pont entre Charles Dickens et Lester Banks.
C'est
voilà,
énorme.
C'est ça qui est assez hallucinant avec Tristram. Nous recevons donc demain soir, comme je vous l'ai dit juste avant en chronique, donc le traducteur de Charles Dickens, de Grandes Espérances, Jean-Jacques Greff. Il sera accompagné avec les mythiques éditeurs de Tristram, Jean-Hubert Gaillot et Sylvie Martini. Tristram Édition, une maison d'édition basée à Auch, vous voyez, et qui a débuté son travail d'édition en 1987. Vous voyez, on a fêté les 30 ans il y a 5 ans. Et ils ont commencé avec quoi ? Bah, tout simplement en fonçant à Francfort, vous voyez, acheter les droits de traduction et de publication donc de Lester Banks, des écrits de Lester Banks en français.
Mais alors, comment ça a atterri à Francfort ?
Francfort, c'est la grande foire.
Comment une petite maison de Auch ?
Voilà, alors bah, eux, ils étaient, en fait, c'est des rockers, hein, vous voyez, en 87, ils devaient avoir une vingtaine d'années. Et en fait, ils ont tout de suite monté ce projet de maison d'édition. Ils l'ont intitulé Tristram, en référence à Vie et Opinion de Tristram Shandy, un texte d'un auteur anglais également Laurence Sterne du 18e siècle, mais c'est un projet de vie, hein, Tristram éditeur. Vous avez la chance demain soir de pouvoir les entendre discuter, Jean-Hubert Gaillot et Sylvie Martini. Ils ont publié un livre il y a 5 ans pour fêter leurs 30 ans, vous voyez, de maison d'édition qui s'appelle Association de malfaiteurs. 30 ans d'édition indépendante.
Pour rappeler quand même pour les plus jeunes, Lester Banks,
oui, voilà,
quand je disais plus grande critique rock,
c'est lui qui a fondé le genre.
C'est lui qui a créé la rock critique.
Quoi. Voilà, c'est ça.
Comment on peut le présenter? Carburateur un petit peu flingué pour reprendre le titre de ses bouquins.
C'est le Hunter Thompson de la musique. C'est vraiment du journalisme gonzo. On connaît plus Hunter
Thompson. Las Vegas Parano,
mais c'est vraiment le Las Vegas Parano, on va dire, des critiques rock. Quoi. Lester Banks est mort avant 40 ans, je crois. Ouais. Voilà, une vie, on va dire, très très chargée. Quoi.
Ouais.
Voilà, en plein de substances et de rencontres différentes. Et extrêmement radical. C'est peut-être même lui d'ailleurs qui a créé ou participé au mot punk. Il me semble avoir
vu ça. Je crois bien. Il n'y a pas de Philippe Manœuvre sans Lester Banks, il n'y a pas d'enfant du rock.
Les éditeurs, d'ailleurs, en 87, quand ils ont foncé à acheter les droits de Lester Banks, ils ont tout fait relire ligne à ligne à Philippe Manœuvre, hein, bien évidemment, à l'époque. Hein,
vraiment, pour expression qui convient.
Ligne à ligne. Et donc, donc Lester Banks, c'est un monument, comme Charles Dickens, en fait. Voilà, là j'aurais fait le pont, et nous avons la chance de retrouver ces deux éditeurs qui accompagneront donc leur traducteur demain soir. Ça va être une rencontre vraiment rock. On s'est dit, on met un concert de rock juste après aussi. Rock, pulp, indie, folk. Donc on se dit, ça pourra sans doute matcher avec Tristram.
La plume de Lester Banks, on parlait de Lou Reed. Il a un de ses articles mythiques dans le magazine Cream de 1975, qui était intitulé, je vous recommande de le lire si vous tombez dessus, qui s'appelle « Comment je me suis battu avec Lou Reed sans m'endormir une seule seconde ». Ça vous donne un peu la teneur du style de l'écrivain, de l'écrivain.
Ouais, c'est ça, et exactement, c'est ça, c'est vraiment les lettres. Vous voyez, là j'ai un autre titre d'article sur les Stooges. Les Stooges, le pire cauchemar de vos parents. Vous voyez, et là, je résiste pas à lire juste une ligne, il décrit forcément un peu, des répétitions hypnotiques d'un seul et même accord tonitruant, à un volume capable de réduire à l'agonie une meute de chiens, accord sur lequel Iggy susurrait et aboyait et hurlait des chansonnettes improvisées à l'instinct sur les tourments de l'adolescence avec la voix d'une sorte d'ombre mutante de Mick Jagger empoisonnée à la jusquiame noire.
Voilà,
Lester Banks.
Il faut relire Lester Banks, il faut venir vendredi soir à la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan pour entendre parler de celui qui a posé les fondations de la rock critique. Et ça, c'est à partir donc
de 19h vendredi, en même temps donc que Charles Dickens. Voilà, on parlera de Lester Banks et Dickens, ça va être sympa. Et samedi, pour terminer sur nos rencontres, après donc cette belle soirée de vendredi.
Samedi, idée cadeau pour Noël.
Exactement, on va prendre en autre voie la plus commerciale possible.
Oui, BTS Force de Vente.
Nous parlons de livres.
Ah, il y a un pote à moi au milieu, deux même.
Voilà, ça va être facile. Samedi, donc matin à 11h à la Louve à Saint-Sevé et à 18h à la librairie Caractère, nous recevons simultanément trois auteurs que tout différencie, mais que tout réunit également.
On parle quoi? De rugby.
On parle de rugby.
On parle de bouffe et de camembert.
Voilà, et de choucroute et de patates et de...
Et j'en passe.
Et on parle également d'Espagne, d'amitié entre deux hommes et d'histoire de l'art avec Yves Arté, Pierre-Brice Lebrun pour Petit Traité de la choucroute, mais également du camembert, de la patate,
Israël
jusqu'à Menoir. Et nous recevons également Guillaume Herbert qui a écrit donc Rugby en cœur, des hymnes et des hommes, voyage en pays d'Ovalie. Voilà, c'est-à-dire une traversée du monde du rugby à travers les différents hymnes des pays, même des localités, des régions.
Ouais, parce qu'il y a bouquin de rugby, et celui-là, il est préfacé quand même par Charles Olivon.
Voilà, tout à fait.
Capitaine de l'équipe de France.
Voilà, je parle sous votre contrôle.
Oui.
Et voilà, donc un beau livre photo. De Guillaume Herbert, donc c'est trois autres.
Trois thématiques et trois idées cadeaux, pour un petit peu tout le monde.
Tout à fait.
C'est à partir de quelle heure ça?
Donc 11h à la Louve à Saint-Sevé et 18h à Caractère.
C'est chiadé, hein. C'est organisé, hein. C'est timé.
Mais je l'espère bien. On aura le quart d'heure landais sans doute d'ajustement, bien sûr, mais les horaires seront intégralement respectés.
Oh, c'est bien. Ah non, mais c'est bien.
On baisse comme
la chute. Oh, alors, mes amis techniciens appellent ça un fade. Je les salue.
Voilà, c'est un fade humain.